Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Il est 10h48 minutes et pour finir cette émission, nous avons la chance d'avoir deux chroniqueurs en studio. Salut, ça va bien?
Très bien, merci.
Ça va et vous?
Ben oui, merci, merci. Jérémy aussi, il est là?
Je suis pas parti.
il est resté. De quoi venez-vous nous parler?
Ben voilà, nous, on va un peu vous parler de la montée en flèche d'un mouvement dont vous avez sûrement déjà entendu parler, parce qu'il circule de plus en plus sur TikTok et Instagram, ou même sur Facebook, c'est la mode des tradwives. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce mouvement, si ça vous dit quelque chose.
Oui, c'est un petit peu comme un mouvement qui est... pas la réponse, mais qui suit un petit peu le mouvement de la montée du masculinisme aussi, un petit peu.
Oui. Exactement, oui, c'est étroitement lié. Et ben, quoi qu'il en soit, vous avez très certainement déjà vu passer ce mot, peut-être sous la forme d'hashtag, mais sans trop savoir ce qu'il recouvrait. Et ben alors, en fait, les tradwives, c'est la contraction de traditional wives, en anglais littéralement, épouse traditionnelle. C'est un mouvement de femmes, en fait, qui revendiquent un retour au rôle domestique traditionnel, comme par exemple, rester à la maison, s'occuper du mari, des enfants et du foyer, tout en rejetant l'idée d'émancipation professionnelle ou féministe. Pour faire une petite partie un peu plus historique du terme tradwife, ça vient en fait du monde anglo-saxon, surtout des États-Unis et du Royaume-Uni, mais aujourd'hui ça circule largement sur les réseaux sociaux. On y trouve des vidéos très esthétiques, des femmes en robe rétro qui cuisinent, qui entretiennent la maison ou qui expliquent pourquoi, selon elles, le rôle naturel d'une femme est celui d'épouse au foyer. Beaucoup se réfèrent un peu au modèle de la ménagère américaine des années 1950-60. Donc concrètement, les principes du mouvement sont assez clairs. Glorification du mariage traditionnel et de la soumission au mari, rejet du féminisme moderne, présenté comme source de malheur ou de solitude, valorisation d'une vie centrée sur le foyer et la maternité, parfois associée à une religiosité forte. C'est donc vraiment une vision qui s'oppose frontalement à l'idéal progressiste d'égalité des sexes. D'un côté, on a vraiment des mouvements qui cherchent à étendre les droits et libertés des femmes, et de l'autre, on a cette tendance qui prône au contraire un retour assumé à une inégalité des sexes. Et derrière nos écrans, ça se traduit par des influenceuses très suivies. Je ne sais pas si vous avez un peu ce genre de nana qui prône tout ça dans vos contenus. C'est très, très à la mode.
Oui, un peu.
Mais par exemple, en France, on peut citer Thaïs, qui compte plus de 200 000 abonnés YouTube. Elle affirme en fait que les femmes modernes sont irresponsables, que l'infidélité féminine est plus grave que celle des hommes. Elle blâme la pilule contraceptive et dans une vidéo vue plus d'un million de fois, donc c'est énorme, elle déclare que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ils ne le seront jamais et il n'est pas souhaitable qu'ils le soient. Donc là, on voit bien le glissement. En fait, on parle plus seulement de nostalgie ou de choix de vie individuel, mais de discours qui flirtent avec les valeurs de l'extrême droite. Et c'est ça qui peut faire peur. Par exemple, moi, j'ai une petite cousine qui a 14 ans et je m'interroge sincèrement sur l'impact de ces contenus entendus des dizaines de fois par jour sur une jeune adolescente en pleine construction. Et puis aujourd'hui, il faut le dire, hein, on a une information qui est sans frontières, qui est complètement délocalisée. Et qui peut très bien arriver d'Australie, que du Canada, de la Belgique. Enfin, vraiment, quand je regarde, par exemple, sur ma page Instagram, j'ai des contenus de personnes que je ne suis pas, que je ne connais pas, et qui viennent vraiment de n'importe où dans le monde. Et puis, on sait aussi que les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes qui amplifient ce genre de contenu. Et plus on regarde une vidéo, plus la plateforme nous propose d'autres du même style. Et ça, c'est un vrai problème, justement. Je vais un peu donner la parole à mon ami Noé, qui étudie les médias et qui pourra peut-être nous éclairer là-dessus.
Merci, Romane. En effet, comme beaucoup d'autres, je me suis interrogé sur l'influence des réseaux sociaux sur les idéologies de nos générations. Je me suis particulièrement intéressé au rôle des politiques dans ce domaine, en m'appuyant notamment sur l'expertise du politologue belge François Debras. Ce qui frappe d'abord, c'est l'intérêt croissant des politiciens, tout parti confondu, de gagner des likes, des abonnés, et plus largement l'attention des jeunes sur Instagram, TikTok, etc., avec l'objectif légitime de gagner quelques précieux votes lors des élections prochaines. Mais il y a quelque chose qui est plus subtil et peut-être plus vicieux encore, sont les contenus du quotidien qui apparaissent apolitiques, mais qui en réalité véhiculent des idéaux bien plus profonds. Certains posts anodins, dans le fitness, la beauté, la nutrition par exemple, projettent des valeurs ou des visions du monde qui dépassent largement leur apparence. C'est exactement le cas des tradwives dont tu parles. Leur contenu semble inoffensif, comme tu l'as expliqué, des recettes artisanales, un mode de vie rural, des petites scènes du quotidien. Mais dès qu'on analyse leur profil plus en profondeur, on retrouve un conservatisme marqué et un attachement à des valeurs traditionnelles qui résonnent directement avec les mouvances d'extrême droite. Ce discours échappe souvent à l'œil des utilisatrices, mais sûrement pas à ceux des algorithmes. Eux détectent l'intérêt de milliers de jeunes filles pour ce mode de vie idéalisé et leur suggèrent progressivement des contenus de plus en plus marqués idéologiquement. Et alors peu à peu, ce glissement conduit à une vision politique qui limite les libertés des femmes, qui remet en cause le droit à l'avortement et qui s'inscrit plus largement dans une logique ultra-conservatrice. Et alors c'est là qu'il y a un vrai danger. Les Tradwise, mais comme beaucoup d'autres créateurs de contenu par ailleurs, n'ont plus besoin de faire la promotion explicite d'un parti politique. Elles diffusent semi-ouvertement un idéal féminin qui peut transformer en profondeur l'opinion personnelle des utilisateurs. Et c'est ainsi que les réseaux sociaux deviennent un terrain de diffusion politique beaucoup plus puissant qu'on l'imagine.
Bah oui, c'est vrai que c'est très intéressant parce que, comme tu le dis, depuis que je fais un peu des recherches pour ma chronique, j'ai vu, on m'a proposé de plus en plus de contenu sur les masculinistes, les tradwives, okay. Ouais, ou d'extrême droite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est applicable, enfin qu'on voit quoi. Mais pour revenir un peu au sujet, si tu veux bien, merci Noé. Les tradwives, c'est aussi un mouvement traversé par plusieurs contradictions. Donc par exemple, beaucoup de tradwives condamnent le travail des femmes au nom de l'idée que c'est à l'homme de fournir l'argent. Mais pourtant, elles-mêmes gagnent leur vie en produisant du contenu sur les réseaux sociaux et en faisant des placements de produits et des partenariats. Donc c'est vraiment un business, on peut le dire, très lucratif en fait. Et c'est assez paradoxal parce qu'elles prônent le retrait des femmes dans le monde du travail tout en exerçant elles-mêmes une activité professionnelle numérique. Concrètement, sur TikTok, on le voit par exemple, on voit défiler des vidéos de jeunes femmes qui filment leur quotidien cocooning dans une petite maison décorée avec soin. Elles donnent vraiment l'image d'une vie idyllique, très esthétisée, hein, des jolies femmes bien habillées, bien maquillées, qui passent leur journée à cuisiner, à prendre soin d'elles, à sourire. Et tout est fait pour séduire et donner envie. Mais cette mise en scène occulte une réalité bien plus sombre, en fait, parce qu'on ne montre jamais la violence psychologique ou les contraintes qu'appliquent ces rôles figés. Mais alors, qu'est-ce qui attire ces femmes vers ce modèle ? Je ne sais pas si vous avez des petites suggestions. Qu'est-ce qui pourrait attirer vers une vie qui... comme ça, en fait ?
C'est une hypothèse que j'ai lue, évidemment, là, ça ne sort pas de ma tête. Il y a une recherche de l'émancipation, mais à la maison. Donc, c'est une peur de l'étranger. C'est une peur du monde extérieur. Ouais. Donc, en fait, c'est une façon de simplifier, en fait, la complexité du monde. Et bien, c'est ça. Dans un cadre très clair, dans un monde conservateur, traditionnel, les limites sont évidentes, sont claires et sont rigides. Donc, évidemment que c'est sécurisant, là.
Ouais, t'as raison. Non, c'est plutôt ça, ouais. Il y a vraiment un sentiment, en fait, rassurant d'avoir des rôles clairs et attitrés, enfin, une place définie. Et c'est vraiment inspiré d'une vision idéalisée des années 50, présentée comme une époque pure, harmonieuse. Mais en réalité, c'est bien plus un fantasme culturel nourri par des films, des publicités, de la nostalgie qu'une vérité historique. Parce que les années 50, pour beaucoup de femmes, c'était aussi moins de liberté et moins de droits. Par exemple, au Québec, une femme mariée était encore considérée comme une mineure juridique. Donc, elle avait besoin, en fait, de l'autorisation de son mari pour signer certains contrats ou gérer ses biens. Donc, autant dire qu'un compte TikTok tenu par une femme dans les années 50, ça, clairement, c'est impossible. Et puis, c'est bien ça le problème, parce que derrière les robes rétro et les vidéos de cuisine, c'est toute une idéologie conservatrice qui s'invite dans notre fil d'actualité. C'est un retour assumé au rôle traditionnel de la femme soumise à la famille patriarcale, souvent au nom de la religion. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il faut toujours être critique envers ce qu'on voit sur les réseaux, parce que tout le monde choisit ce qu'il a envie de nous montrer, mais c'est pas pour ça que c'est vraiment la réalité.
Ouais.
Il ne faut pas oublier le rôle qu'ont les algorithmes dans la maturation de notre pensée. Plus on regarde un type de contenu, plus on nous en propose et au final, ça crée une bulle qui peut donner l'impression que cette vision du monde est la seule possible. Et c'est là, en fait, le vrai danger, je pense, parce qu'à force d'être exposé, on peut finir par intégrer des idées ou des modèles de société sans même s'en rendre compte. Surtout pour les plus jeunes, hein, qui passent énormément de temps en ligne et dont l'identité est encore en construction. Derrière des vidéos jolies, rassurantes, esthétiques, se glissent parfois des idéologies beaucoup plus lourdes et qui peuvent influencer la manière dont on perçoit les relations, les rôles dans la société ou même ce que l'on pense être normal. Alors sans tomber dans la paranoïa, bien sûr, il faut garder une distance critique, apprécier le contenu pour ce qu'il est, mais ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'une mise en scène et souvent d'un business. Parce que derrière un sourire et une cuisine bien rangée, il y a aussi une stratégie d'influence en fait. En effet, c'est un peu le paradoxe des réseaux sociaux. On croit regarder de simples vidéos de quotidien, mais on est parfois face à de véritables discours politiques ou idéologiques emballés dans du papier cadeau esthétique. Et à nous alors de ne pas nous laisser piéger et de continuer à questionner ce que l'on consomme. Merci. Ouais, merci.
Super beaucoup. Chronique, Lamon.
Merci.
C'est les chambres d'écho qui...
Ouais,
les chambres d'écho, ils jouent tellement un rôle important là, dans la société. Ouais. Mais merci. Merci d'être venu nous en parler. C'était vraiment apprécié.
Ouais, merci.
Puis vous l'avez tellement bien expliqué que je suis sûr que tous les auditeurs ont bien compris le phénomène et la problématique.
Là, ouais, j'espère, c'est le but. Oui.
C'est ce qui met fin à cette émission. Nous avons eu un 2 heures très chargé, autant en chronique qu'en entrevue. Et je vous souhaite une bonne journée à vous tous et aux auditeurs aussi. Et on se revoit la semaine prochaine.